Allô?
Oui?
Commandant?
Comment?
Je ne suis pas chez le commandant Cousteau.
Ah non?
Je suis le capitaine Nemo à l'appareil, hein.
Pourquoi vous appelez chez moi?
Écoutez, madame, nous sommes à bord de la Calypso, et nous sommes à 300 mètres de profondeur au sud des Galapagos. Nous observons un phénomène nouveau, on a besoin de le joindre. Est-ce que vous pouvez prendre le numéro et l'appeler?
CO2, mon amour.
Vous lui dites qu'on observe sur le radar, avant, une formation de moules géantes.
Des moules?
Géantes, hein.
Géantes?
200 mètres de tour, hein.
Oh là!
Denis Chessou.
Commandant Cousteau, vous m'entendez, madame?
Oui.
Demandez au capitaine Nemo la couleur des moules.
Pas sûr que ce soit un extrait du film, ça. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui Pauline Laverdure et Nicolas Slimani à la technique, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Je sais bien que c'est un jour de concorde aujourd'hui avec Nice, bien évidemment, mais ce qui ne concorde pas toujours, c'est peut-être la corrida. Un colloque a été organisé au Palais du Luxembourg, j'ai pas pu vous en parler la semaine dernière, c'était le 4 octobre. L'homme et les animaux vers un conflit de civilisation, c'était organisé par l'Observatoire National des Cultures Taurines. Son président André Viard, je le rappelle, avait tweeté le 9 janvier 2015, deux jours après la tuerie de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est le journal le plus violent en France, pour preuve son travail anti Taurin, je ne suis pas Charlie. Bon, fort heureusement, des aficionados ont réagi aussi défavorablement à sa déclaration. Alors, dans ce colloque, il y avait la caution de Michel Vauzel, député des Bouches-du-Rhône, d'un psychiatre, Joël Pont, qui nous a dit « Quel modèle de société voulons-nous offrir à nos enfants ? Une société aseptisée ? Les enfants ont besoin de héros, comme la corrida peut en offrir. » Eh ben moi je dis c'est beau ça comme déclaration. François Zolto aurait aimé aussi. Sauvons nos enfants d'une société, oui, aseptisée, en leur offrant des héros qui font couler du sang animal. Malheureusement, le comité des droits de l'enfant de l'ONU ne dispose pas de spécialistes de l'envergure de ce psychiatre et c'est bien dommage. Les maires de l'Union des 80 villes taurines de France ont signé donc une charte pour les libertés de la diversité et la diversité des cultures qui conclut sur l'inscription de la culture taurine à l'inventaire du patrimoine culturel de la France, alors que cette inscription n'existe plus aujourd'hui. Cerise rouge sang sur le gâteau de fin. Au terme de cette journée, des sénateurs vont demander donc une enquête parlementaire sur les mouvements animalistes. Et alors le secrétaire donc PS des Landes, Jean-Louis Carrère, va demander la création de cette commission, estimant que l'État ne peut fermer les yeux sur sa montée en puissance. Et sa collègue des Landes, toujours Danielle Michel, aussi PS, si vous êtes contre, donc ils sont absolument partis sur ce thème-là. Et c'est vrai que si vous êtes contre la chasse à l'ortolan, le gavage industriel des canards et la tauromachie dans les Landes, là vous oubliez tout de suite l'ambition d'être un représentant du peuple et vous changez de métier. Les participants au colloque critiquent la modification apportée au code civil sous la pression des mouvements animalistes pour y introduire des animaux en tant qu'êtres vivants et doués de sensibilité. Mais c'est vrai ça, comme si un taureau qui reçoit, une petite frappe chirurgicale sous forme de piqûre améliorée pouvait souffrir et avoir une sensibilité en dégueulant tripes et boyaux sur le regard attendri des enfants du business taurin. Mais oui, quoi. Selon eux, l'animalisme a entrepris de modifier le rapport de l'homme aux animaux tels que les religions, l'humanisme et le droit l'avaient établi depuis les débuts de notre histoire. Ah, là, on ne mollit pas, hein. Même si d'ailleurs l'honnêteté consiste à dire que ces mouvements peuvent regrouper le pire et le meilleur. Bon, à part que la peine de mort pour les taureaux en France, elle est quand même relativement récente. Alors, il faut aussi que cette commission étudie la réalité de ce phénomène inquiétant dont les ramifications et le financement, je cite, s'étendent dans le monde entier. Ce qui veut dire qu'à côté, si vous voulez, Google, Facebook, Lehman Brothers et d'autres, c'est un peu la Fondation Abbé Pierre. Pour eux, il y a un danger de rupture entre des populations attachées aux valeurs de l'humanisme et celles qui prétendent lui substituer l'idéologie animaliste. Et puis le président donc, du Sénat, Gérard Larcher, vétérinaire au départ, disait, au fond, ce n'est pas de l'animal dont il s'agit, mais bien de la place de l'homme, c'est-à-dire de savoir si l'homme possède une spécificité différente par rapport à toutes les autres espèces. Bah oui, il a une conscience. Voilà, ils ont toujours oublié de citer Gandhi. La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite ses animaux. Ah la vache. Les sénateurs ont décidé donc de placer quelques banderilles dans le dos des défenseurs de la cause animale. suspecté quand même d'incarner une nouvelle internationale terroriste aux ramifications autant douteuses que cosmopolites. Rien de moins qu'une commission d'enquête parlementaire. Bref, les matadors du palais du Luxembourg, devant le péril que représentent les dangereux animalistes, sont descendus dans l'arène. On les aurait souhaités moins belliqueux, par exemple, qu'ils se mènent à la musique, qui paraît-il adoucit les mœurs, et plutôt que de torturer un taureau, moi je ne sais pas moi, qu'ils fassent un bœuf.
Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux ?
Alors, j'espère que vous êtes plus en forme qu'un générateur de vapeur de la centrale de Fessenheim, davantage concerné par l'écologie qu'une primaire des Républicains ou une réunion du PS, que votre âme est moins destructrice qu'un traité TAFTA au jus de caribou, autrement dit le CETA, aujourd'hui quand même très dévastateur pour le climat, car il fait grande place aux énergies fossiles. Voilà, sans parler de l'agriculture bien sûr et du reste. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? On va vous proposer du buis, qui est une plante d'ornement superbe. Et problème, c'est qu'il y a la pyrale qui est dessus, des champignons, bref. Bref, le buis n'est pas très en forme en France. Et puis, on verra aussi des choses positives par rapport à ce buis. Et puis, on va s'intéresser aussi aux épluchures. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les épluchures ? C'est un sujet très intéressant et très original qui va être signé Marie Cochard. Et puis, notre dernière séquence, quand la nature inspire les écrivains, aujourd'hui, ce sera Camus. Bel après-midi.
It's been a tough year for everybody. It's been a tough year for my family. It's been tough year for everybody. It's been a tough year.
Mama's gone around the bend. She hears voices in her head. Now with all the drugs she takes, she can't recognize my face. May she get well soon. May she get well soon.
Trying to break this spell.
Break your spell, may we get well.
It's been a tough year for everybody. It's been a tough year for my family. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year. Oh, my baby's heart is weak, and he might need surgery.
C'était Cocoon, Get Well Soon, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice.
Quel bonheur! Ce soleil! Cet air! Ce parfum! Ces collines, ces arbres, ces oiseaux, ces œufs à la coque!
France Inter, CO2 Mon Amour, avec Denis Chessou.
Et pour lancer notre sujet sur le buis, beaucoup de buis pour rien, ben non, effectivement, on en fait du buis, on a bien raison. C'est Marie Riboulet qui nous a laissé un message au 01 56 40 40 35 sur le répondeur de votre émission.
Bonjour, je vous appelle de la petite commune de Chorange, dans l'Isère, au pied du Vercors, pour vous interpeller sur les attaques de la pyrale du buis que nous subissons depuis l'année dernière. Au plus fort d'une attaque, pour vous donner un exemple, il y a tellement de papillons la nuit qu'on croirait de la neige et que nous devons rouler avec les essuie-glaces. Face au manque de réaction des autorités, la majorité des 130 habitants de la commune ont entrepris une initiative citoyenne qui consiste à mettre tous les soirs un maximum de bassines remplies d'eau et d'un peu de détergent près d'une source de lumière. Et là, nous capturons jusqu'à 25 kilos de pyrale par nuit et par foyer, en sachant que chaque femelle pond environ 200 œufs. Des millions de futures pyrales sont ainsi éradiquées. Mais ça ne suffit pas, il en reste encore des millions qui font crever les buis de la région en causant un énorme préjudice écologique, esthétique, touristique. Nous attendons de l'aide et des solutions des services publics avant qu'il ne soit trop tard et que face au manque de nourriture, les pyrales ne mutent et s'attaquent à d'autres végétaux, par exemple, ce qui est un petit peu notre crainte. Je vous remercie, c'était Marie de Choranche.
Voilà, et vous faites vraiment porte-parole de beaucoup d'auditeurs par rapport à ce buis. Donc avant de passer du napalm, on va essayer de trouver un petit peu autre chose. Il n'y a pas grand-chose, vous allez voir quand même en définitive. Mais ce que je vous propose d'abord, c'est d'aller dans ce très beau département du Lot, où j'ai rencontré un homme qui s'appelle Pascal Bié, qui est un ingénieur agronome, qui a travaillé donc à l'INRA. Et nous sommes du côté de Soliac, c'est-à-dire nous avons le scellé donc, à nos pieds. Et cet homme-là connaît bien le buis. Ah, alors là, Pascal Bié, on va saluer le buis, notre ami le buis. Et alors Pascal, donc ici, ce buis, quel est le rapport avec le Lot? Dites-nous, au-delà du fait qu'il se porte bien, on peut le trouver dans le Vaucluse, on sait qu'on le trouve dans le Midi, mais alors, là, il est foisonnant. Hein.
Voilà. Le buis est foisonnant parce qu'il a, en particulier, il pousse dans un écosystème qui lui convient,
ouais.
C'est-à-dire les bassins versants et le dessus du bassin versant, 3 à 5 km du haut du bassin versant.
Mais il aime bien le calcaire aussi quand même.
Il adore le calcaire, voilà. Il pousse lentement, ouais. Il résiste bien au froid, ouais. Bien au chaud. Il arrive à se mettre à l'ombre et à se créer des ombres qui le favorisent. Il se défend contre les animaux.
Ah ouais.
Et pendant très longtemps, c'est...
Et il va aider les animaux aussi.
Il va également aider les animaux, puisque pendant très longtemps, le buis était coupé en bûchette pendant l'hiver, était composté, on peut dire ça, sous les pieds des moutons, et apparemment le buis contiendrait un fongicide qui ferait que effectivement les bêtes en étable pendant tout l'hiver n'attrapaient pas le piétin. Et à la belle saison, on sortait le compost, enfin le buis composté par les pattes des moutons, humidifié de leurs urines et de leurs fesses, et on le revendait notamment dans la zone de vin du Bacaor, enfin du Balot. Et l'autre partie, on l'a gardée comme un amendement pour la terre, puisque le buis a pour spécificité de se décomposer très lentement, il est extrêmement ligneux, y compris dans les feuilles.
Donc son action est
fertilisante, mais elle intervient aussi sur la structure du sol. C'est-à-dire que quand on a une bûchette de buis, comme ça, peu décomposée pendant 2 ou 3 ans dans le sol, il aère le sol. Le sol a besoin d'oxygène. C'est pour ça qu'il y a des vers de terre qu'on célèbre beaucoup. Voilà. L'amendement en buis a ce double avantage. Il fertilise, il se décompose très lentement. Et en plus, il restructure le sol.
On ne pourrait pas repenser cela, se dire, parce que là, on le voit partout. Ça devient quand même maintenant une espèce un peu envahissante. Hein.
Tout à fait.
Le voit. Bon, c'est très joli.
Aucun animal ne le mange. Et donc, on avait pensé,
Les lamas, ils ne mangent pas.
Même les lamas.
Ils n'en veulent pas. Non, parce qu'ils ont dû peut-être sentir le fongicide naturel.
Voilà. Même les camélidés ne le mangent pas.
Eh ben voilà, camélidés, je veux partir.
Donc, on a effectivement un peu utilisé le buis en menuiserie, en tournant, par exemple, la robinetterie, tout ce qu'on appelle le petit matériel de cuisine, dont
on parle
notamment les rouleaux à pâtisserie.
Ah oui.
C'est un must d'avoir un rouleau à pâtisserie en buis parce que le bois de buis est tellement serré qu'il ne retient pas, si vous voulez, les moisissures et tout ce qui pourrait gâter la pâte.
Bien.
Voilà.
Les robinets, puisque donc on n'est pas loin de Saint-Cyr-la-Popie,
oui,
donc tradition de tourneur de bois.
Tourneur, oui.
Et il y avait des robinets Tairès, comme on disait.
C'est ça.
C'était les fabricants de robinets, des tonneaux de vin.
Oui, c'est ça. Mais on fait aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ici, on fait comme les maisons sont souvent étroites, pour bouger les lits, ils sont sur des roulettes au fond d'alcôve.
Et c'est du buis ?
Et les roulettes sont en buis.
D'accord.
Parce que le buis est un bois très très dur, très compact et très lourd.
Ouais, ouais.
Bon, mais ce qui pourrait être effectivement ponctuellement intéressant, en tous les cas à tester, c'est de faire une espèce de machine qui récolterait le buis de l'année.
Une moissonneuse à buis. Quoi.
Voilà, une moissonneuse.
On va dire ça comme ça.
Voilà. Qu'on pourrait ensuite composter et revendre en jardinerie, puisque les engrais dits naturels sont très à la mode. Quoi.
C'est ça.
Et on pourrait les faire également composter sous les pieds des moutons pour ceux qui ont des bergeries encore et qui rentrent leurs moutons l'hiver.
Voilà, donc c'était notre série Beaucoup de buis, pour apprendre des choses sur quand même ce végétal. Et donc c'est d'une résistance folle.
Très grande résistance au froid, au chaud.
Alors le délice, évidemment, les jardiniers s'en sont emparés et donc on a pu le tailler aussi, ce buis.
Seulement celui qu'on a sélectionné est malade. Les buis cultivés en jardinerie ont attrapé une maladie, un insecte envahissant, ils sont en train de dépérir. Alors ça, que moi, mes buis à moi, ils n'ont rien.
C'est quoi? Parce qu'ils ont, une mauvaise fréquentation?
Non, c'est-à-dire que c'est toujours, enfin, on dit le buis, mais il y a des milliers de variétés de buis. Ah, ouais. À chaque endroit où il y a un buis, il y a une spécificité du buis. D'accord, c'est ça qu'on ne connaît pas. Le buis des combes, le buis des versants, le buis du haut de tout ne sont pas les mêmes. Même s'ils apparaissent de la même espèce, leur façon de pousser n'est pas la même.
De même que pour le blé, il n'y a pas si longtemps, vous faisiez du nord au sud ou de l'est à l'ouest 15, 20, 30 km. Il y a un blé différent qui était adapté au sol, au climat.
Et on le voit, enfin. Bon. Et donc, ces buis, ils ont beau appartenir à la même espèce. Je suis sûr que si j'en déterre un là et un là-bas, ils n'ont pas du tout la même façon d'utiliser la terre.
D'accord. Bon, Pourtant, ils seront à 100 mètres.
Il y en a qui doivent avoir des racines de superficie, d'autres des racines pivotantes. De vivre en symbiose avec les érables de Montpellier ou avec les choses complètement différentes.
Ça donne du boulot, c'est pour les jeunes, ça.
Voilà.
Formidable.
Mais c'est bien. C'est l'expérience. Il peut y avoir une approche extrêmement empirique des choses. Ouais. Je veux dire, tout le monde n'a pas la maîtrise des microscopes électroniques et n'a pas fait 10 ans d'études supérieures.
Mais
l'observation. Voilà.
En vous écoutant une fois de plus, Jean-Marie Pelle serait absolument ravi, c'est de se dire, faisons avec la nature.
Oui, c'est ça.
Et comprenons-la.
Essayons de la comprendre. Ouais.
C'est pas un retour, c'est pas le retour en arrière qu'on a
pas du tout, pas du tout.
Resserre, donc.
C'est au contraire un retour en avant. C'est-à-dire essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je pense qu'il est temps, il est grand temps, grand temps qu'on regarde ses pieds.
C'est ça. Alors maintenant, rentrons dans les laboratoires, place à la science avec vous, Elisabeth Tabonne. Bonjour à vous, parce que vous êtes responsable du laboratoire de biocontrôle à l'INRA. Vous êtes à Antibes, vous travaillez aussi avec vos collègues d'Avignon. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ?
Bonjour Denis.
Vous allez nous parler maintenant de ce ravageur, parce que évidemment les buis sont atteints, même beaucoup, 86 départements quand même en France. Alors il est venu d'Asie par des échanges horticoles. Quand on parle de ravageur, il s'agit bien de quoi ? De la chenille au départ ?
Alors, c'est bien le stade de chenille, donc larvaire qui fait les dégâts, puisque c'est elle qui va manger le feuillage et même clignoter l'écorce au besoin.
Alors pourquoi elle aime ça, spécialement le buis ?
Donc il y a une coévolution, donc c'est un insecte qui s'est très bien adapté au buis et qui n'a pas de compétition pratiquement. Et en effet, dans le buis, il y a des alcaloïdes qui sont quand même toxiques, donc tous les insectes ne sont pas aptes à pouvoir ingérer des alcaloïdes. Et cet insecte, il a la capacité en plus de stocker au stade larvaire d'ailleurs des alcaloïdes, qu'il protège contre les prédateurs et les auxiliaires.
Lorsqu'il devient papillon, il est inoffensif ou pas ?
Alors le stade adulte n'attaque effectivement pas le buis, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien les chenilles qui est le stade agressif.
Et alors ce buis, évidemment, il est quand même très important. Il est entre autres utile contre les érosions du sol.
Le fait de toucher en fait cette strate, c'est un vrai problème aussi bien au niveau des équilibres écosystémiques des forêts que de la biodiversité. Parce qu'il y a des espèces qui sont inféodées au buis, par exemple des lichens, qui sont très spécifiques. Le buis lui-même, il permet de lutter contre l'érosion des sols. C'est une strate arbustive qui est importante parce qu'après une perturbation comme un incendie, par exemple, il permet la recolonisation des forêts. Parce que s'il n'y a plus de buis sur des larges surfaces, ça va entraîner une perturbation au niveau de la couverture du sol. Et dans le sol, il y a des micro-organismes, des micro-arthropodes. Il va y avoir un changement d'apport de matière organique, donc tout ça, ça va perturber la biodiversité en fait.
Elisabeth Tabonne, combattons maintenant cette pyrale du buis, que faut-il faire et quelles sont les recherches aujourd'hui dans le cadre de l'INRA ?
Alors, il y a un programme national qui s'appelle Cellbuxus, qui est travaillé par plusieurs partenaires. Et actuellement, donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir contrôler le buis à tous les stades de son développement pour obtenir un contrôle optimal, un peu nuisible. Pour ce qui est du stade adulte, donc, il y a une méthode par piégeage des mâles en utilisant des phéromones de synthèse qui a été mis au point donc, par nos collègues d'Avignon. Et il y a aussi, pour le stade larvaire, la technique d'utilisation du Bacillus thuringiensis, qui est très efficace. C'est vraiment quelque chose qui marche bien aujourd'hui, qui est commercialisé.
Simplement, il faut bien pénétrer dans le massif de buis, je crois, avec le Bacillus thuringiensis.
Le Bacillus thuringiensis, l'objectif, c'est de bien mettre du produit de partout, puisque son action, c'est lorsque la larve a ingéré la feuille, elle ingère en même temps ce produit. Et les buissons sont denses, donc il faut vraiment bien mouiller l'intérieur du buis.
Donc ça se passe
après,
par...
Il faut respecter l'utilisation, puisque c'est quelque chose de vivant, il ne faut pas laisser le produit au soleil, etc.
Ouais. Et donc ça se passe par vaporisation, hein.
Tout à fait, par vaporisation, oui.
Dis donc, est-ce qu'on ne peut pas être aidé aussi par des oiseaux? Moi, je pense par exemple aux mésanges, parce qu'elles boulottent des processionnaires du pain.
Tout à fait, les mésanges, voilà. Les mésanges, ce sont des oiseaux donc, qui sont utilisés déjà pour lutter contre des nuisibles, qui sont aussi largement travaillés contre la processionnaire du pain. Et aujourd'hui, c'est une voie aussi de recherche qui est prévue pour la pyrale du buis. Puisque les larves, en fait les femelles donnent à manger des larves aux oisillons. Hein, donc c'est quelque chose de tout à fait envisageable.
Alors il y a des personnes qui vont avoir la tentation de la chimie, hein, ça c'est un grand classique. Hein, parce qu'ils vont se dire bah, ça va peut-être aller plus vite. D'un point de vue environnemental, c'est pas terrible du tout, ça on le sait.
D'un point de vue environnemental, et puis ça perturbe aussi les auxiliaires naturels. Donc voilà. Après, c'est un cercle vicieux. Hein, plus on traite, plus on perturbe, et plus on est obligé de traiter. Enfin, je veux dire, bon, c'est vraiment pas cette voie qu'on préconise. Et puis en plus, au niveau réglementaire, non plus, quoi.
Voilà, et puis on affaiblit évidemment tout l'écosystème. Donc le bacille de Thuringe, hein, c'est ça, et puis le piégeage. Hein, c'est... Aujourd'hui, on en est là.
Oui, voilà, tout à fait. Et nous-mêmes, donc, dans notre laboratoire, on travaille pour essayer de trouver un parasitoïde oophage. Donc c'est un parasitoïde qui pond sur le stade œuf, pour essayer de compléter donc, la gamme de lutte, tous les stades en fait, du développement du ravageur.
Ce qui est quand même très intéressant, c'est que là aussi, vous êtes absolument au cœur de ce que l'on souhaite dans cette émission, c'est-à-dire relier l'homme avec la nature et de faire avec la nature, de ne pas faire contre.
Tout à fait. De toute façon, on utilise ce qui existe, sauf que le tout, c'est de trouver la bonne espèce, la bonne souche pour être le plus efficace possible, que ce soit économiquement acceptable, pour que ce soit commercialisé après à grande échelle.
Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de chercheurs, de scientifiques comme vous, parce que plus on connaîtra ce monde du vivant, ben plus on pourra trouver les parades de ce même monde du vivant.
Tout à fait. C'est ce qu'on, nous aussi, c'est notre objectif et on fait tout pour.
Merci beaucoup Elisabeth Tabonne. Et puis cette pyrale a trouvé des conditions favorables, hein, quand il fait doux. Nos hivers vont être de plus en plus doux aussi. Bon, il y aura des écarts encore, mais quand même, on voit bien la tendance. Eh ben, elle aime bien la pyrale, elle aime bien. Alors, on ne peut pas nous soupçonner évidemment dans cette émission de rouler pour la chimie comme des malades. Mais je tenais quand même à donner la parole à Jacques Mie, qui est le directeur général de l'Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics. Bonjour à vous Jacques Mie.
Bonjour Denis Chessou.
Alors d'autres méthodes évidemment pour lutter contre ce fameux parasite qui embête quand même beaucoup de gens dans nos jardins dits à la française et dans les jardins des particuliers. Qu'est-ce que vous préconisez? Je sais que vous opposez pas hein, systématiquement les méthodes tranquilles, les méthodes bio, etc. et tout, mais vous, qu'est-ce que vous préconisez vu quand même l'ampleur des dégâts?
On a un contexte réglementaire qui fait que finalement on n'a plus tellement de choix. Sur le buis actuellement, il est confronté à deux problèmes. C'est-à-dire la pyrale et également des maladies. Donc sur la pyrale, même dans le contexte des nouvelles lois, c'est-à-dire où on abandonne les produits chimiques de synthèse, ça pose pas de problème dans la mesure où on a déjà les solutions de biocontrôle, c'est-à-dire des solutions naturelles, soit à la base de micro-organismes, comme le Bacillus thuringiensis, soit à la base de médiateurs chimiques, c'est-à-dire confusion sexuelle, etc. Donc là, on a la solution contre la pyrale. On est beaucoup moins à l'aise sur les maladies, parce qu'en fait, on n'a pas de solution naturelle pour lutter contre les maladies. Donc on a des méthodes prophylactiques, c'est-à-dire qu'on essaye par les pratiques culturales d'empêcher la maladie de venir, c'est-à-dire il faut désinfecter les outils de taille, etc. Ouais. Mais actuellement, on n'a pas de solution naturelle. Donc il y a deux voies, c'est soit rechercher une méthode, un nouveau traitement, mais comme je vous le dis maintenant avec la loi, on ne peut plus rechercher dans la voie chimique, on est obligé de rechercher des produits dits de biocontrôle, donc ça, il faut du temps pour les trouver, soit ça va être une sélection variétale, et là, la sélection variétale, ça demande aussi du temps. Alors actuellement, une des solutions que l'on a, mais elle est condamnée à terme, c'est de faire des traitements chimiques en préventif, pour lutter contre ces maladies, mais à partir de 2017, c'est interdit pour les collectivités locales, et à partir du 1er janvier 2019, de toute façon, c'est interdit pour les amateurs. Donc nous, notre challenge en tant qu'industriel et fournisseur, c'est de trouver les solutions qui vont permettre de protéger le buis.
Alors,
effectivement, on regrette un petit peu ces échéances d'interdiction, mais ça peut être aussi vu comme un aiguillon. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une position un petit peu, je dirais, mitigée. C'est-à-dire qu'on dit, bon, aller dans un sens d'un jardinage dans les espaces publics ou dans les espaces privés, d'avoir quelque chose de plus naturel, on n'a pas les mêmes enjeux que l'agriculture, pourquoi pas, mais il y a des cas où on aurait eu besoin d'un peu plus de temps.
Quelles sont les maladies en question donc qui attaquent? On a le parasite d'un côté, on a bien compris, mais quelles sont les maladies pour le buis?
Les maladies, en fait, on a deux champignons. On a, bon, si on veut faire scientifique, on a un cylindrocladium et on a un volutella. Bon, en fait, ces deux champignons sont souvent présents de la même façon et c'est ce qu'on en appelle globalement le dépérissement du buis. Donc, si vous n'avez pas d'inoculum, vous avez des buis en bonne santé. Si en revanche vous êtes dans une zone où il y a déjà des buis contaminés, la solution oui. actuellement, c'est de faire des traitements préventifs à base de fongicides de synthèse qui marchent, mais qui sont à terme interdits, j'allais dire demain, de toute façon. Donc il faut trouver une autre solution.
En fait, vous n'avez pas, vous, la même approche qu'en agriculture conventionnelle. C'est quand même différent, quoi. Vous n'avez pas les mêmes, c'est pas non plus les mêmes contraintes, mais dites-nous un petit peu quelles sont les approches que vous
connaissez. Je pense qu'on n'a pas les mêmes approches, parce que d'abord, on n'a pas les mêmes, je dirais, impératifs économiques, sans doute, et on n'a pas non plus les mêmes utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a quand même, globalement, on a affaire à la société. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire au monde rural. On a affaire à des particuliers, on a affaire à des collectivités, on a affaire à un autre type d'utilisateur et qui depuis, j'allais dire même avant le Grenelle de l'environnement, il y avait déjà une demande de produits plus doux, de changer, de mettre moins de chimie. Donc les fournisseurs que nous sommes, notre premier besoin c'est de répondre à l'attente de la société et de nos clients. Et donc on a eu une autre approche, c'est de dire, eh bien la chimie, il va falloir progressivement la remplacer par autre chose. Mmh. Et c'est pour ça que la conversion était commencée avant même les premiers textes réglementaires. Alors ça s'est un peu retourné contre nous, parce qu'on a dit, bah, puisqu'ils sont dans la bonne voie, eh ben, on va continuer, on peut y aller. Hein. Oui. On n'est pas dans la même problématique que l'agricole, c'est-à-dire qu'on avait bien compris qu'il fallait changer, et le monde agricole... Ils n'ont pas les mêmes impératifs, c'est vrai, mais ils sont beaucoup plus arc-boutés, j'allais oui. dire, sur des positions plus dures que les nôtres.
Il y a eu le texte du sénateur breton, donc Joël Labbé, et puis après, il y a eu de nouveau une autre demande, on va dire, qui a accéléré le mouvement de Ségolène Royal. Mais n'empêche que vous n'avez pas forcément encore trouvé le bon produit en ce qui concerne...
C'est un petit peu le regret que l'on a dans tout ça, parce qu'on était plutôt les bons élèves, c'est-à-dire que quand on prenait le plan Ecophyto, on avait fait des accords volontaires, etc. Donc on nous donnait en disant, tiens, ben, regardez le monde du jardin et le monde des espaces publics, c'est plutôt le bon élève. Et finalement, ça s'est un peu retourné contre nous. Pas parce qu'on était contre l'esprit de vers quoi on voulait aller, mais on avait besoin de temps, tant que M. Labbé nous avait donné et tant que Mme Royal... Elle veut faire de l'affichage, ça je le comprends, et elle dit qu'elle s'attaque à bras le corps au problème des pesticides, mais elle a pris, enfin je dirais, le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire en s'attaquant au jardin et en oubliant qu'il nous fallait quand même du temps pour trouver des solutions alternatives.
Voilà, le plus gros quand même, on le rappelle, c'est aussi la chimie. Donc Jacques Mie, directeur de cette union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics, quand vous envoyez, vous secouez un peu votre prunier, enfin votre buis, et puis les boulasses récoltées, vous les envoyez se faire rôtir. Hein, c'est un peu ça aussi qui fonctionne, mais c'est vrai que c'est un travail, on l'a bien compris avec notre auditrice qui nous avait donc laissé ce message. Voyons aussi un côté très positif du buis, parce qu'on a compris que la famille du buis est quand même assez importante. Alors on va aller dans un pays de calcaire, on va aller dans le sud de la France, du côté du Larzac, rejoindre Nicolas Braic qui a créé Buxor. Bonjour Nicolas Braic.
Bonjour Denis.
D'abord vous êtes jeune, vous avez 35 ans, et puis nous sommes dans une très belle partie du Larzac, c'est laquelle ?
Donc c'est le Larzac méridional, c'est-à-dire le Larzac boisé, ouais. Très proche du massif de la Serranne, donc contrefort du Larzac, avec un taux d'embroussaillement, on va dire 90% de buis, qui est très important, et donc des enjeux pastoraux et des enjeux de feux de forêt. Très, très, très spécifique.
Et donc, on a entendu Pascal Cibier, donc, il parlait donc, des vertus du buis. Et alors, donc, votre projet, qu'est-ce que c'est ?
Alors, notre projet, c'est en fait capter l'énergie solaire contenue dans les végétaux et la restituer au sol. C'est-à-dire reconstituer un humus forestier à partir de la broussaille, ce qui permet à terme de régénérer les sols. Et on est sur des externalités positives, c'est-à-dire que après notre travail, les pâturages sont libérés, on peut augmenter le pastoralisme, lutter contre les feux de forêt, et puis ce broyat va générer de la calorimétrie, on va s'en servir, on va chauffer des bâtiments, élever des larves pour nourrir des cochons. Voilà, on est vraiment sur un système de boucle vertueuse.
Et on n'est pas sur les buis, on va dire, qui sont attaqués actuellement dans les jardins, c'est d'autres formes de risques. Vous avez très peu d'attaques, hein.
C'est ça, nous on est sur des variétés sauvages, naturelles, qui n'ont pas eu cet effet de multiplication, on va dire, importante dans certains domaines. Ils ont, une défense vis-à-vis de l'agresseur encore importante. Après, on ne sait pas ce que va nous donner la suite, mais Buxor est vraiment une veille sanitaire sur ce genre de problème, parce qu'on a un système qui permet de sectionner les buis au ras du sol, on laisse tout le système racinaire. Donc le buis va repousser, mais au passage, s'il est infecté, on peut ciseler. Donc mécaniquement, on a déjà une action. Et après, le fait de pré-composter, on monte à 60 degrés pendant plusieurs mois. On est sûr qu'il n'y a aucun œuf qui peut survivre à ce genre de système.
Une de vos inventions donc avec Buxor, c'était cette machine hein, qui à la fois permet de couper comme il faut, parce que c'est quand même très costaud le buis, et en même temps de laisser cette régénération.
Donc on est vraiment sur une innovation agricole, forestière, avec plusieurs partenaires français, dont Mécalac, qui est une exploitation française à Annecy, et donc des machines multifonctions pelle mécanique, des fabricants de broyeurs français, équipe Jeanpin, qui sont dans le 89, et puis on va dire plusieurs partenaires qui permettent de développer, et on a récemment construit un broyeur hybride télécommandé. Donc on est déjà dans la nouvelle génération, dans la nouvelle façon de récolter cette matière respectueuse de l'environnement.
Alors vous avez ces paysages qui sont superbes, hein, de Saint-Maurice, de Navacelles, vous avez donc ce très beau cirque de Navacelles sous les yeux, mais en fait, comment est venue cette idée ?
Alors c'est vraiment étonnant, moi je suis éleveur de cochons plein air en agriculture biologique.
Sur le Larzac,
et je me suis aperçu qu'il y avait en fait des zones où mes cochons ne pénétraient pas. Et en me renseignant avec les anciens, je me suis rendu compte que le buis avait vraiment pris le dessus, qu'il avait, on va dire, envahi absolument tout, y compris sous les chênes, on avait beaucoup moins de glands. Et donc je me suis lancé dans cette façon innovante de débroussailler grâce aux méthodes Jeanpin, qui sont en fait des méthodes qui ont été vraiment développées dans les années fin des années 70 et qui en fait sont respectueuses de l'environnement et consistent en fait à capter cette broussaille. Et cette méthode Jeanpin est un système qui engendre un broyat qui va vraiment permettre de créer du sol. Donc voilà, la boucle était bouclée, on débroussaille, on crée du sol, on génère, nous, en parallèle pour, on va dire, permettre à ces personnes de prendre en compte les avancées technologiques sur la création de sol. On a développé en parallèle, pour arriver à créer le marché, des systèmes de sol équestre donc, qui permettent de faire des pistes de galop et des marcheurs et des écuries. Et donc voilà, nous, ça nous permet de développer, de continuer à faire de la recherche agronomique. Et en parallèle, on fait des terrains de sport qui sont très très appréciés dans le milieu hippique.
Et puis il y a quand même un constat, c'est qu'il y a beaucoup de populations qui migrent à cause de sols qui sont érodés et appauvris. Et ça, c'est une véritable motivation aussi pour vous.
Tout à fait. En fait, à terme, donc, j'aimerais créer un système Buxor Développement qui permettrait de redistribuer une partie des bénéfices pour créer du sol dans les milieux arides où les populations souffrent énormément et donc stabiliser les populations à l'échelle mondiale. En fait, les sols vivants sont la cohésion d'une bonne santé et d'une population humaine heureuse.
Juste pour terminer, Nicolas Braic, de très jolis noms, Buxor, qu'est-ce que c'est ?
Buxor, c'est Buxus aurum en latin, l'or du buis, avec comme emblème le scarabée d'or, la cétoine dorée, qui est le renouveau de la vie.
Alors on retrouvera évidemment vos informations sur le site de CO2 Mon Amour. On vous souhaite le meilleur dans le Larzac et puis à très très bientôt. Merci Nicolas Braic.
Merci Denis, merci, à bientôt.
Ben c'était le buis dans tous ses états, avec donc de l'innovation avec Nicolas Braic. Il n'y a que sur Inter et Radio France hein, qu'on peut vous faire 20 minutes sur le buis. Ah bah oui, c'est comme ça, enfin, j'espère que vous vous intéressez. Et puis vos épluchures, qu'est-ce que vous en faites ? Allez, dans 3 minutes, on va vous le dire.
Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. Vous avez completely stolen my heart. Matin, midi et le soir, toujours wondering where you are. That's the way I felt right from the start. Chérie, my love for you is très, très fort. Wish my French were good enough. Oh, I tell you so much more. Mais j'espère que tu as compris all the little things you do to me. Darling, je vous aime beaucoup. my darling, vous êtes très jolie. Qu'est-ce que c'est you do to me? Je suis absolument in a trance. Tout le temps, j'espère que vous dream of me a little too. Ah, chérie, je pense this is romance. Quand nous sommes alone and you are in my arms, je remercie le bon Dieu for all your lovely charms. Dites-moi, do you love me too? Je suis happy if you do. Darling, je vous aime. I love you so, c'est vrai, I do, I love you.
Pour désannoncer cette chanson, il faut tenter de prendre une voix inspirée et pénétrante. C'était donc Lucy Dixon, Darling, je vous aime beaucoup, choisie avec grand bonheur par Muriel Pérez, notre programmatrice. On risque de changer de registre là.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire ?
Eh bien, il va falloir les assommer.
Ouais.
Et les tuer,
oui.
Bien entendu.
Aïe,
voilà.
Aïe.
Alors, pour les tuer, viens là, ma biche, viens là, ma biche, viens là. Là, il ne faut pas être en grande tenue, hein.
Eh oui.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Tu ne remueras plus.
Eh ben non, c'est ça, oui, on s'en lasse pas. Ça, c'était Maïté, donc une amie des animaux. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à un autre sujet. On feuillette notre magazine. C'est un magazine, on tourne les pages. Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire. C'est aux éditions Erol, avec vous, Marie Cochard. Alors, c'est un terme original. Vous êtes notre Madame Épluchure aujourd'hui. Et en fait, vous avez commencé par glaner, par collecter des paroles d'un peu partout sur les épluchures.
Oui, auprès surtout d'anciens qui ont encore cette mémoire-là de ne rien jeter, de tout réutiliser. Alors, en cuisine, oui, mais il existait déjà des ouvrages sur le sujet. Donc, à la salle de bain, en soins, parce qu'on peut faire des cataplasmes, des tisanes, et puis au jardin, parce qu'il y a beaucoup d'épluchures, de restes, de rebuts qui peuvent servir d'insecticides, d'engrais.
Alors, beaucoup de nos auditeurs donc, font bien sûr de leur compost, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément non plus avoir une poule pour vous débarrasser de tout ça. Et donc, vous avez dit, on va faire autre chose. Et vous avez évidemment élargi le spectre. Alors, nous avons notre économiseur qui est quand même la clé de tout ça. C'est un instrument merveilleux, ce qu'on appelle l'économiseur, hein, donc les éplucheurs. Quoi.
Tout à fait. Donc, mais les éplucheurs, c'est à la fois les peaux, les pépins, le trognon, les écorces, les fans, le tronc, je pense au brocoli par exemple. Donc effectivement, c'est très très large.
Alors vous avez récupéré des informations à la campagne aussi à l'étranger.
Oui, parce que j'ai pas mal d'amis ayant fait mes études sur Paris, Erasmus aide, turc, chilien, portugais, anglais. C'est comme ça que j'ai découvert qu'on faisait une tarte aux épluchures de pommes de terre en Angleterre, qu'on mangeait de l'écorce de pastèque en Iran, confite en fait, c'est comme un petit bonbon, qu'on mangeait des pépins de melon en Chine. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger mais qui se font pas forcément ici, et l'idée c'est de changer de regard, donc de s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs et de casser un peu les a priori qu'on pourrait avoir sur les épluchures.
C'est un ouvrage qui est tout à fait agréable et aussi sous forme d'abécédaire, donc A comme artichaut. Moi je me souviens de Coluche qui disait...
Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé.
Bon, qu'est-ce que l'on fait avec l'artichaut ?
Ce qui est vrai, c'est pas très roboratif, mais par contre, on peut conserver ses feuilles, les faire sécher, et puis les utiliser sous forme de tisane. C'est détoxifiant, en fait. C'est excellent pour le foie.
D'accord, donc on fait sécher les feuilles, tranquillement.
Voilà, une fois qu'elles sont... un torchon, tout simplement.
Et après, infusion tranquille, quoi. Donc,
exactement.
Bon, c'est parfait. Mes œufs, on a parlé des poules. Mes œufs, qu'est-ce que j'en fais ?
Alors les œufs, beaucoup de choses. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est les faire bouillir, ces coquilles, parce qu'il faut retirer un maximum de bactéries, toutes les bactéries. Et ensuite, l'idée, c'est de les utiliser. Alors vous pouvez soit les réduire un peu en morceaux pour nettoyer votre vaisselle, donc ça peut servir d'éponge, parce que l'œuf est très abrasif, mais il ne raye pas.
Ah.
Donc c'est une excellente éponge naturelle. Très économique de surcroît, puisqu'on ne sait jamais que faire de ces coquilles. Par le passé, on ajoutait en fait de la poudre de coquille d'œuf dans son café, parce que ça permettait d'atténuer en fait l'amertume. Donc ça adoucit, et puis on bénéficie de tout ce qu'il y a dans la coquille d'œuf, c'est-à-dire du calcium, des nutriments, des antioxydants. Donc on peut consommer sa coquille d'œuf. Alors là, j'en appelle au téméraire quand même.
Oui.
Et...
Vous n'allez pas tuer tous nos auditeurs quand même, hein?
Voilà. Non, on va éviter.
Qu'est-ce que c'est? Ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Ah, ça c'est étonnant.
Et puis comme vous êtes une femme de la Gironde, Gujan-Mestras, l'huître ne vous a pas complètement échappé. Et c'est vrai qu'il y a des tas de vertus sur l'huître. Il y a par exemple une société de peinture pour les routes qui se sert des coquilles d'huîtres pour faire après des peintures naturelles. Mais on n'est pas forcément à la tête d'une entreprise comme celle-là. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les coquilles d'huîtres?
Alors, soit à la maison, je dis à la maison, il faut quand même un jardin. Les réduire en fait en paillettes.
Ouais.
Et les...
Déjà, c'est du sport. Hein.
Et les... oui, j'en parle
la masse, quand même.
Avec expérience.
Le marteau.
Ouais. Dans un sachet si possible et puis un masque si vous avez, c'est préférable.
D'accord.
Et donc, on les épand sur son potager, quand on en a un, puisque c'est très riche en calcium.
Très bon amendement.
Par exemple, les tomates, vous pouvez mettre et les coquilles d'œufs et les coquilles d'huîtres au pied, puisque les tomates, en fait, quand elles ont le fameux oïdium, c'est dû à une carence en calcium. Donc, le fait d'apporter cet engrais en complément va vous éviter bien des désagréments.
C'est délicieux, délicieux. Mange, mon fils. C'est délicieux, mange.
C'est un antitartre puissant. Donc, on rince sa coquille d'huître pour pas apporter un goût d'iode à ses éléments d'électroménager. Mais on peut en glisser une dans sa cafetière, on peut en glisser une dans son lave-vaisselle, on peut en glisser une dans le réservoir de ses toilettes et le tartre se fixera en fait sur la coquille.
Ah oui, d'accord, c'est un piège à tartre. Soit dit, c'est vrai qu'elle aime le calcaire, hein, donc il faut qu'elle en fabrique.
Le tartre n'aime pas les surfaces lisses, voilà. Il aime les surfaces rugueuses. Donc, il va se fixer automatiquement sur la coquille d'huître.
Les fraises, qu'est-ce que je fais avec mes fraises?
Alors les fraises, en fait, l'inspiration, elle vient du Canada, puisque là-bas, on consomme les queues de fraises. On en fait des gelées, des sirops. Il faut savoir que la queue parfume autant que le fruit. Donc pour un dessert, pour une panna cotta, vous pouvez utiliser également la queue de la fraise, qui sera tout aussi parfumée, et puis qui surprendra, je pense, vos invités.
Ah oui, tout à fait. Non, mais bien évidemment. Tabernacle, je vais vous faire donc une gelée à la queue de fraise, vous allez voir, c'est vrai que c'est formidable. Non, mais ils ont des tas d'idées merveilleuses. Les cucurbitacées, allons-y, la courge, le potimarron, le potiron, que sais-je.
Alors, on ne le dit pas assez, effectivement, tous les pépins que vous allez récupérer là pendant l'automne, de vos butternuts, potirons, potimarrons, courges, se consomment, elles sont extrêmement riche en antioxydants. Donc en fait, il suffit de les mettre sur un papier sulfurisé, un peu d'huile, des épices ou des herbes au choix, vous salez et vous les croquez à l'apéritif en fait. Alors dans le livre, il y a une recette un peu plus élaborée.
J'ai vu ça.
À la mode un peu suédoise, ouais. C'est-à-dire vraiment faire des crackers comme on trouve en magasin biologique avec ces graines par-dessus. Mais vous pouvez également avec la peau et un peu de chair vous faire un masque pour cheveux parce que c'est extrêmement nourrissant en fait les cucurbitacées, donc et puis ça peut donner un peu de coloration à vos cheveux.
Ça fait pousser les cheveux ou ça les fait pousser les colores?
Oui, ça peut améliorer la pousse et c'est surtout que c'est très nourrissant, donc c'est l'un des meilleurs masques que vous puissiez faire là à l'automne pour vos cheveux.
Puisque je te dis que je t'invite, viens, goûte mes frites.
La pomme de terre.
La pomme de terre, bien évidemment, les chips de d'épluchure de pommes de terre. Vous vous brûlez, par exemple, vous pouvez poser des pelures de pommes de terre en cataplasme. Mmh. C'est quelque chose qui est très apaisant, en fait, la pomme de terre. Et on peut s'accorder aussi une pause avec un masque, puisque c'est très hydratant, c'est aussi anti-acnéique. Donc, si on a des soucis de points noirs, on peut jouer avec ces pommes de terre. Alors, à ne pas faire avant minimum 10 ans de mariage, hein, je préconise
c'est ça,
toujours.
Je comprends bien.
Ou en tout cas, dans l'intimité la plus totale.
Mais on avait bien compris. Sinon, ça peut être un tue-l'amour, on l'a bien pigé. Et puis les adolescents donc, qui nous écoutent aussi, si vous avez des boutons hein, sur la gueule, bah, allez-y, mettez-vous les pommes de terre. Ils vont adorer ça, ils vont adorer ça. Le kiwi, alors le kiwi, je ne savais pas, on peut manger la peau.
Alors, c'est ce qu'on fait en Nouvelle-Zélande, en fait. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande...
Grand producteur.
Il ne se pose pas la question, il le consomme avec la peau. Pourquoi ? Parce que c'est dans la peau qu'il y a la vitamine C.
Et oui.
Bon, il y a aussi de la vitamine C dans la chair, mais beaucoup moins. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas perturbant, la pilosité du kiwi. Absolument pas. C'est-à-dire qu'à la première bouchée, vous pourrez constater que...
Ça passe.
Ça se passe très bien. Ah oui. Il faut vraiment oublier tous les a priori qu'on a. Il faut changer de regard sur nos fruits, nos légumes et ne plus considérer les rebuts comme quelque chose qui doit être jeté, qui doit être mis à la poubelle.
Marie Cochard, qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure des épluchures ?
Toutes ces personnes qui œuvrent dans ce sens et qui transforment un rebut en ressources sont allées puiser dans des savoir-faire ancestraux, millénaires parfois. Je pense à cette jeune femme qui a appris à faire du cuir de fruits au Moyen-Orient. Je pense à cette autre jeune femme qui a... Du cuir de fruits. Ouais. Donc en fait, c'est une purée de fruits. C'est quelque chose qui est né pendant la période des caravanserais. Ouais. Et donc, c'était un moyen de consommer des fruits en hiver et de pouvoir les transporter. Donc en fait, on fait une purée de fruits qu'on cuit à très basse température, 30-40 degrés, pendant 5 heures. C'est étalé extrêmement finement sur la plaque. Et donc, on découpe ensuite des lamelles qu'on roule. Ça a vraiment la consistance du cuir, d'où le nom. Et en fait, ces petits rouleaux, on peut les emmener avec soi et les consommer en qualité d'encas. Donc, excellent pour les enfants, très riche en vitamines. Parfait pour les sportifs. Ça peut d'ailleurs aider quand on a des soucis intestinaux, etc. Mmh. Et donc, ça peut se faire avec des kiwis, de la banane, des pommes.
Ce sont des alliés, en fait, ces épluchures et ces fruits et légumes.
Oui, et puis ça permet, en fait, de se dispenser de certains achats. Je pense à l'intérieur de la peau de banane qui peut permettre de blanchir ses dents naturellement. Vous passez l'intérieur de la peau, la partie blanche, sur les dents. Et une fois par jour, ça pendant une semaine, et vos dents auront naturellement blanchi. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont incroyablement efficaces. Donc, tant qu'à faire d'acheter bio. Mmh. Et moi, je dis toujours, si on a les moyens de le faire, ce serait quand même malheureux de ne pas les utiliser dans leur intégralité. Je pense que c'est la moindre des choses.
Mange, mon fils. C'est délicieux. Mange. Que c'est bon. Voilà.
Merci beaucoup Marie Cochard. Donc je vous renvoie, mais avec grâce à vous, les épluchures n'ont presque plus de secrets. On va regarder ces épluchures un petit peu différemment. Tout ce que vous pouvez en faire, cuisine, jardin, beauté, soins, c'est aux éditions Erol. Et vous m'avez apporté, oui, quelques épluchures. Bah, écoutez, on va s'en débrouiller comme ça pour la suite de l'émission. Merci à vous Marie.
Merci à vous.
Ça fonctionne. La peau de banane, j'ai aussi essayé sur des canapés en cuir. Ça marche très, très bien pour retirer des taches. Voilà, donc je vous le dis. C'est plein de trucs. Merci à vous, donc Marie Cochard. Je vous signale que le 22 octobre, à Thomery en Seine-et-Marne, vous aurez le salon Écologie Son. Ils font tout à base de légumes. Là aussi, c'est très intéressant. Tenez, un autre message, 01 56 40 40 35.
Connaissez-vous la forêt nourricière ? Elle est l'expression du génie de l'arbre et du monde végétal. Inspirée de la nature, cette forêt nourricière, appelée aussi jardin-forêt comestible, fait référence à la permaculture. Toutes les strates végétales y sont présentes, de la carotte au grand fruitier. À la ferme du Bouchot, nous avons créé deux forêts nourricières, où toutes les plantes sont comestibles. La vie y est à tous les étages. La biodiversité y règne. Venez visiter ces nouveaux jardins d'Éden, les 15 et 16 octobre prochains. Ils vous ouvrent leurs secrets. Vous y ferez des balades thématiques, vous découvrirez une architecture unique, inspiré de la nature, le Zôme. C'est à 2 heures au sud de Paris, à Pierrefitte-sur-Sauldre. On vous y attend avec le beau temps.
Et après le buis, après les épluchures, notre troisième et dernier sujet, notre séquence « Quand la nature inspire les écrivains », aujourd'hui Albert Camus.
Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent.
Quand la nature inspire les écrivains, c'est aux éditions Plume de Carotte, un ouvrage que vous avez écrit, Elisabeth Combre. Alors Camus et la nature, c'est vrai qu'on ne l'attend pas forcément sur ce terrain, avec quand même le soleil d'Alger aussi toute sa vérité. Notre homme a 46 ans, Camus dit vouloir revenir à l'essentiel dans Le Premier Homme, donc son roman, on le sait, inachevé. Et puis là, il puise aussi une partie de sa force, il faut le dire, dans cette nature nord-africaine de sa jeunesse.
Oui, et c'est ce qu'il a voulu raconter dans ce dernier livre qu'il n'a pas pu finir. Camus avait titré bien avant un de ses livres « Le mythe de Sisyphe ». Sisyphe, vous savez, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui est condamné à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne pour le voir ensuite dévaler jusqu'en bas éternellement. Donc Camus,
qu'il nous dit que la vie est absurde, quoi.
Oui, elle est absurde, mais il nous dit aussi qu'il faut voir Sisyphe heureux. Donc en résumé, oui, la vie est absurde, il faut le savoir, mais ça n'empêche pas de trouver le bonheur. Et le bonheur, la force de vie, Camus l'a trouvé en partie effectivement dans la nature. Dans la nature des environs d'Alger, oui, où il a vécu aux côtés de sa mère sourde et illettrée. Son père a été tué pendant la Grande Guerre. Et voilà, ces paysages nord-africains, il les raconte. Son enfance, il la raconte dans Le Premier Homme. Alors, il va jouer sous les feuilles, il court sur la plage, il teste ses forces en prenant une palme entre ses mains et en luttant contre le vent, jusqu'à ce qu'il puisse plus et il lâche. Donc, on sent effectivement que c'est l'enfant qui grandit, qui prend conscience de sa force.
Se promener dans cette jungle parfumée, y ramper, y tapir le nez au niveau de l'herbe, défricher au couteau les passages enchevêtrés et en ressortir les jambes zébrées et le visage plein d'eau, c'était une ivresse.
Voilà. Oui, ça c'est Camus qui fête les sensations dans la nature. Il y a des thèmes récurrents, c'est la mer et le soleil, la chaleur et la lumière, même dans Caligula, même dans L'Étranger. Et puis Camus et la nature, il faut lire Noce, il faut lire L'été, écrit beaucoup plus tard. Hein, Noce, c'est un recueil de nouvelles, de mini-récits, dans lesquels Camus raconte ses expériences quasi mystiques dans la nature. Il a écrit ça dans les années 30, il est encore en Algérie, et il découvre le site archéologique de Tipassa, dont les ruines sont accrochées aux rochers qui descendent jusqu'à la mer, c'est aux environs d'Alger. Et alors, il est tout jeune homme encore, et il est menacé par une tuberculose qui progresse. Et là, c'est entre ciel et mer, sous la lumière et la chaleur du soleil, au milieu des odeurs d'absinthe. Il se sent revivre, il oublie la maladie. Et quand il entre dans l'eau, il raconte un bain. C'est entre le baptême et le baiser. Il réunit jouissance et sentiments mystiques pour dire la joie d'être en vie, tout simplement.
Il me faut être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupire lèvre à lèvre depuis si longtemps la terre et la mer. Et lorsque, en fait, après son Nobel de 1957, qu'il laisse un peu abasourdi, il va s'installer aussi à Lourmarin. Et s'il va à Lourmarin, au-delà de la beauté des lieux que l'on connaît dans le Luberon, c'est aussi parce qu'il retrouve la terre et le soleil de son Algérie natale.
Camus ne croyait pas en Dieu, mais il voyait du divin dans la nature. Il ne croyait pas dans l'éternité, mais vraiment en la force de l'instant présent et qui, en lien avec la nature, permet de se révéler à soi-même. Il a dit lui-même, il parle de cet été invincible qu'il a senti en lui, quand justement au milieu de l'hiver, il se remet en lien avec ses souvenirs de nature et son enfance si belle et si forte malgré la misère.
C'est une des plus belles phrases. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Merci beaucoup Elisabeth Combre, et donc je vous renvoie à cet ouvrage, Quand la nature inspire les écrivains. À bientôt Elisabeth.
À bientôt Denis.
Et la semaine prochaine, ce sera Marguerite Yourcenar. Merci à Camille Blanès, notre assistante, à Xavier Pestudia, qui a toujours colorisé de main de maître cette émission, à Muriel Pérez, à Nicolas Slimani, Paulina Verdure à la technique, à Anne Gouzon, qui nourrit les sites aussi de CO2 Mon Amour. Demain matin, 7h55, chez Patricia Martin, là aussi de la nature, de l'environnement, avec Alain Bougrain-Dubourg. Et puis moi, la semaine prochaine, je vous emmènerai dans les Landes. Alors, on va pas parler de corrida, non, on va parler des forêts, on va parler du gémage en particulier. Il y aura aussi Valérie Cabanne, qui est une juriste et qui a écrit un ouvrage sur un nouveau droit pour la Terre, très intéressant. Il y aura les reporters d'espoir, et puis donc cette séquence, Quand la nature inspire les écrivains. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end sur France Inter. Tenez, un peu de photos.